day I follow Aubrey Hale Clayton on a wet deck. That day, I cut my throat.
Salut et bienvenue dans Bande Geek Mafia. Bande Geek Mafia, c'est votre émission Info Culture, une semaine sur deux,
exact,
sur Radio G, et non plus toutes les semaines, avec la dernière émission de l'année ce soir.
Et oui.
Et la Dream Team est là.
La
salut
Dream
Pablo.
Eh, hey, salut Seb. Et alors, on a des invités.
Et voilà, les invités. Salut Sam.
Salut.
De quoi tu nous parles ce soir ?
Aujourd'hui, je vous parle de Gaël Faye. C'est un artiste doublé un peu. Enfin, c'est un chanteur et un écrivain. Il a écrit Gaël Faye et il a sorti récemment un nouvel album qui s'appelle Lundi Méchant.
Trop super. Bien.
Paul.
Bonsoir à tous.
De quoi tu nous parles, Paul ?
De Spider-Man, du nouveau No Way Home.
Super.
Excellent.
Et grand Paul.
Salut. Ça fait longtemps que j'étais pas venu, ça,
ça fait
plaisir.
Écoute, t'as grandi depuis, c'est pour ça que je dis ça.
C'est vrai. Et donc moi, ce soir, je vais vous parler de séries, et d'une série en particulier.
Qui s'appelle ?
Sermon de minuit.
Waouh. Bon, on est bien sur Radio G.
Mais ouais, et alors du coup, on a deux Paul. D'habitude, on a deux Seb.
Ouais, c'est là, ça, d'habitude, on a deux Seb. D'ailleurs.
Là, les gars, les auditeurs vont être complètement perdus, là, si vous continuez.
C'est vrai,
comme
mais
ça,
non,
là.
Mais ils ont l'habitude. Okay. D'ailleurs, on en profite pour saluer Seb et Anaïs, qui nous écoutent peut-être.
Ouais.
Et tous les auditeurs et toutes les auditrices de Radio
ouais,
G.
Bien sûr. On fait des gros bisous.
En ce 29 décembre. Oh. Hey, on est quand même à deux jours du réveillon et ouais, de 2022, hein, attention.
Ouais, c'est bien.
Une belle année qui se profile.
On espère.
On espère. Bon, alors, comme d'habitude, on démarre avec un morceau de musique. J'ai choisi Cypress Hill dans Bande Geek Mafia sur Radio.
Yes, la radio qui fait le point.
c'est Cypress Hill avec Strictly Hip Hop dans Band Geek Mafia. Alors tout de suite, le cinéma, hein, comme d'habitude, après un petit jingle. Alors toujours un jingle qui n'est, qui, comment dire, on va dire, il n'est pas dans la modestie celui-là, mais c'est pas grave, on l'aime bien quand même.
Ouais.
Alors Pablo, tu nous parles de Madres Paralelas.
Madres Paralelas de Pedro Almodóvar. Ouais, peut-être on peut s'écouter un petit peu de la bande.
Ah ouais, mais c'est prévu, hein. Mais laisse-moi juste le temps de cliquer sur le truc.
T'inquiète, y a pas de problème.
J'aimerais vraiment avoir un enfant avec toi, Janice. Crois-moi. Mais je ne sais pas si je peux me le permettre en ce moment.
Il s'agit pas de savoir si on peut se le permettre ou non. L'enfant est déjà là. N'aie pas peur. Tout va bien se passer. Je suis pas seule, j'ai ma mère. Bonjour, trésor.
Je peux la voir? Elle va être très brune comme toi.
Elle est de plus en plus typée, on dirait.
Je crois pas que ce soit ma fille, Janice.
J'ignore ce que ma fille a pu te dire sur moi.
Alors, Madres Paralelas, je vous lis le synopsis. Deux femmes, Janice, interprétée par Penélope Cruz, et Anna, Milena Smith, se rencontrent dans une chambre d'hôpital sur le point d'accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par accident. Janice, photographe professionnelle, quarantenaire, n'a aucun regret. Anna, encore adolescente, vivant chez sa mère, actrice, est effrayée. Ces quelques jours à la maternité vont créer un lien entre ces deux femmes, lien que le hasard va complexifier au fur et à mesure du film. Madres Paralelas, soit Mères Parallèles en français, le dernier film d'Almodovar croise les thématiques de l'histoire, de la mémoire, de la maternité, à travers la figure de deux femmes qui tombent enceintes en même temps, mais entretiennent des relations différentes au passé espagnol. Un film subtil et émouvant qui décline cette réflexion sous trois angles. D'abord la disparition, la transmission intergénérationnelle, le devoir de mémoire et la possibilité du deuil. C'est un très beau Almodovar, c'est un grand... Bon, Almodovar, on le connaît comme un grand cinéaste, on le savait, il manie la caméra avec maestria. On retrouve ses couleurs pop art, mais traitées de façon plus réaliste que dans ses autres films. Et bien sûr, il nous régale de ses intrigues croisées autour de deux femmes superbes. Le film nous replonge dans les années les plus sombres de l'histoire espagnole du XXe siècle, la guerre civile. Il y aurait 140 000 corps de républicains exécutés par les franquistes. Des disparus dans des fosses communes cachées et disséminées dans les villages ruraux d'Espagne. Il intègre cette disparition dans l'esthétique même de son film. Il y inscrit volontairement un aspect inachevé, dont on parlera, Sébastien, parce que c'est vrai que c'est effectivement l'aspect le plus dérangeant du film, il me semble. Hein. Comme s'il voulait nous suggérer que l'histoire n'est pas finie, que le chapitre de la guerre civile espagnole de 1936 à 1939 ne s'est jamais vraiment refermé. Les disparus du franquisme continuent de hanter le pays et les mémoires continue de diviser le pays entre ceux qui souhaitent l'oubli et ceux qui réclament vérité et justice. Bon, si vous avez aimé les mélodrames « Tout sur ma mère »,« Parle avec elle »,« Volver » ou « Julieta », autant de chefs-d'œuvre, vous ne serez pas déçus par « Madres Paralelas », bien qu'il soit quand même un peu en dessous, où l'on retrouve, s'il vous voulez, plutôt les portraits sublimes de femmes, ces thèmes ou ces thématiques habituelles comme les personnes LGBT, l'abandon d'une mère ou d'une fille, la mort, la douleur, mais aussi la beauté des émotions. Et bien sûr, toujours un clin d'œil à l'art, notamment au théâtre. Une dernière chose que je voudrais dire, c'est que Almodovar instaure un dialogue avec son spectateur. Il nous montre à la fois des choses connues, presque attendues, telles des clichés du mélodrame, mais qu'il remet sur le métier de façon nouvelle et subtile, qu'il expérimente encore et encore, comme pour en dégager la formule parfaite. l'équilibre subtil entre connu et inconnu, entre déjà vu et nouveauté. Et au bout du compte, il parvient quand même à nous surprendre et à nous émouvoir.
Pourquoi est-ce qu'on entend Janis Joplin, Pablo ?
Ah, parce que c'est le nom de l'héroïne principale qui s'appelle Janis, et en hommage justement à
Janis Joplin.
Et oui, bien sûr. Bon, toi, t'étais plus mitigé, Sébastien.
Non, mais c'est pas un mauvais film. Mais c'est vrai que, comme tu le disais, par exemple, les deux films précédents étaient quand même au-dessus,
ouais,
celui-là. Après, moi, ce que je trouve un peu problématique, c'est la construction du film, et c'est surtout l'articulation entre les deux intrigues, oui, qui est un peu le point faible du film. C'est l'articulation entre l'histoire de la guerre civile espagnole et l'histoire de ces deux femmes aujourd'hui. Voilà, c'est un problème de construction. Après, le film est très bien, effectivement. Mais on est plus dans le mélodrame que dans le film historique.
C'est ça. On est beaucoup plus dans le mélodrame. Bon, Almodovar est Almodovar. Mais c'est vrai que ce côté historique dont on attend beaucoup, en fait, il nous l'annonce au départ.
Oui, c'est ça.
On a la résolution à la fin. Bon, voilà, on va pas divulgâcher. Mais au milieu, il y a comme un vide.
C'est une autre histoire.
Il y a comme un, y a comme un creux et on attend quelque chose qui ne vient pas. Bon, et manifestement, puis, ça se déroule en parallèle. Mais voilà.
C'est... Mais le thème aussi principal du film, donc, qui est la maternité et, voilà, et ces deux femmes qui sont mères en parallèle, puisque c'est le titre du film, c'est quand même pas un thème hyper original non plus. Non, on a déjà vu ça dans plein de films. Ouais. Voilà. La vie est un long fleuve tranquille.
Absolument.
L'histoire d'échange de bébés, trucs comme
ça. Ouais. Oh là 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 là.
Mais c'est bien fait, c'est bien fait.
Ouais, c'est bien fait.
C'est voilà, c'est un mélodrame. Je sais pas. Moi, il manque un petit truc, je sais pas. Il manque une petite flamme. Il manque un petit peu de folie dans ce film qui est assez assez classique.
Peut-être un petit côté Ken Loach ou un petit côté voilà plus historique, plus engagé socialement. Voilà quelque chose comme ça.
C'est un peu de folie, hein, parce qu'en fait, c'est ce qui. Je pense qu'en vieillissant, c'est ce qui manque un peu à Almodovar. Quoi.
Ouais.
C'est le grain de folie qu'il avait avant.
Qu'il avait au moment
de la c'est normal. Hein,
et c'est vrai.
Il évolue.
Beaucoup de ses détracteurs disent qu'il a perdu un peu ce côté, justement.
Oui, mais c'était pas le cas dans ses deux films précédents.
Non, c'est vrai.
Rulieta, c'est génial. Quoi.
Ouais.
C'est... Mais bon, bref, c'est comme ça. Et puis, il y a Penélope Cruz, alors tout va bien.
Voilà. Ce qui m'est bien chaud.
Elle est quand même. Elle joue super bien. Ouais. C'est une très grande actrice. Alors un deuxième film ce soir, une deuxième chronique, hein, on va parler de Spider-Man No Way Home. Je laisse un peu de Janis Joplin, c'est tellement beau.
Ouais, c'est clair.
Alors qui est-ce qui veut démarrer ?
Vas-y Pablo.
Alors on va y aller tranquillement. Peut-être que tu peux nous envoyer un
petit... Ah ben c'est prévu. Autre ambiance.
Autre ambiance.
Blockbuster américain.
Ouais, c'est clair. Bon, un film très très attendu. Bon, vite fait, je vous lis le synopsis, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Après les événements liés à l'affrontement avec Mysterio, deuxième volet, Spider-Man Far From Home, l'identité secrète de Spider-Man a été révélée. Il est poursuivi par le gouvernement américain, qui l'accuse du meurtre de Mysterio, et est traqué par les médias. Cet événement a également des conséquences terribles sur la vie de sa petite amie MJ et de son meilleur ami Ned. Désemparé, Peter Parker demande alors l'aide du Docteur Strange. Ce dernier lance un sort pour que tout le monde oublie que Peter est Spider-Man. Mais les choses ne se passent pas comme prévu et cette action altère la stabilité de l'espace-temps. Cela ouvre le multivers. Un concept terrifiant dont ils ne savent quasiment rien. Les enjeux deviennent encore plus dangereux et forcent à découvrir ce qu'être Spider-Man signifie véritablement. Hmm. Voilà, voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé, Paul ?
Mais alors, moi, j'ai beaucoup aimé le film. Et grâce à la révélation de Mysterio, comme quoi on sait que Spider-Man est Peter Parker... Mm-hmm. On peut voir une autre facette de Peter Parker. Et de par les événements qui défilent dans le film, on va vraiment de surprise en surprise. Et moi, vraiment, à la fin du film, je me suis dit « Waouh, c'est quelque chose quand même ». Et ce film, il nous ouvre beaucoup de portes pour de prochains Marvel. Il faut bien regarder les deux scènes post-génériques après le film. Et non, vraiment, on peut espérer de nouvelles associations de super-héros dans de prochains Marvel.
D'accord.
Ou de nouvelles associations de super-vilains,
oui,
également.
Alors moi, j'étais hyper content de retrouver l'avocat Matt Murdock.
Oui.
Ah oui, au
donc
début.
Alias Daredevil.
C'est vrai.
Bon, bon,
c'est très court. Hein,
c'était très très court. J'ai un peu regretté.
Mais ça veut dire qu'il y aura un film avec Matt Murdock et Daredevil,
ouais,
prochainement.
Mais attention, n'en dites pas trop quand même pour les gens qui ne l'ont pas
c'est
vu.
C'est le tout début
encore,
du film, oui, ça. Non, c'est vraiment. C'est une toute petite scène, c'est très court.
Mais ouais, ouais. Il fait appel à un avocat.
Voilà.
Et
il est aveugle.
Et voilà.
Bon, un avocat aveugle.
Ouais.
Qui a un sixième sens. Parce que.
De très grands réflexes.
Voilà.
Effectivement.
On se doute du futur de ce personnage.
Moi, j'étais un tout petit peu légèrement déçu quand même par la performance de Benedict Cumberbatch, donc alias Doctor Strange.
En même temps, c'est pas facile de jouer le Doctor Strange.
Ben ouais, mais je trouve qu'il était bien mieux dans les autres. Là, il lui manque le petit côté un peu folie. Je trouve qu'il.
En fait, on le voit pas énormément. Hein.
Non.
On le voit au début quand il lance son sort. Ouais. On le revoit à la fin, mais là, c'est comme pour le film d'Almodovar. Ouais. C'est pas le personnage central.
Non, tout à fait. Mais tu vois, je trouve que... Après, c'était plus aussi, c'était un aspect, je me suis posé la question. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce qu'on reste quand même dans le côté Spider-Man teen movie. Mais je trouve que, comment dire, Peter Parker, on se demande s'il a vraiment évolué. Parce que quand même, il s'est passé des choses. C'est-à-dire que quand même, il est devenu un Avenger. Il a participé à la guerre, la plus grande guerre de tous les temps contre Thanos. Il y a eu tout ça, et puis t'as l'impression quand même que il reste quand même la petite araignée du quartier.
C'est normal, c'est Spider-Man. Qu'est-ce que tu veux lui demander d'autre?
Comme dit Doctor Strange dans le film, ça reste un gamin.
C'est normal.
Ouais, mais c'est-à-dire que tu peux te dire que malgré tout.
Il aurait
pu mûrir un petit peu. Il y a qu'à la
fin. Si tu connais les comics, c'est impossible en fait. Spider-Man, il peut pas devenir adulte, c'est impossible. Sinon, c'est plus Spider-Man.
Et ouais, mais justement, je trouve que là, ils auraient pu tenter.
Sinon, c'est un autre personnage.
Ils auraient pu tenter quelque chose. Tu vois, il reste jeune, mais adulte dans son esprit.
Alors, il y aura un prochain film avec Venom, hein, puisque alors Paul a raison. Il y a deux scènes post-génériques. Il y a une scène très courte avec Venom, et il y a carrément une bande-annonce du prochain Doctor Strange. Et je pense que là, ça pourrait faire évoluer le personnage de Spider-Man, puisque si Venom arrive dans son univers. Parce que l'histoire du film, c'est ça, hein, c'est comment on va traverser les univers, comme dans les comics en fait.
Ouais.
Et si Venom arrive dans son univers, alors là, il y a une possibilité que Spider-Man devienne le Spider-Man noir.
Yo!
Ça n'a pas rien à voir.
Là, on l'a déjà vu avec le Spider-Man de Tobey Maguire.
Oui, mais le Spider-Man noir, c'est-à-dire le Spider-Man qui n'est plus un super-héros.
Ah oui.
Mais j'en dis pas plus.
Ouais. Après, ce que je trouvais hyper intéressant, Paul, on en parlait, c'était le double trio qu'on a.
Ah
oui. En fait.
Alors hop.
Alors je sais pas parce que il me semble que la bande annonce montre déjà pas mal de choses hein, quand même. Hein.
Oui, mais il y a des surprises quand même.
Il y a beaucoup de surprises.
Donc on va pas parler.
Il y a beaucoup de super vilains.
On va pas parler du deuxième trio, mais qui est vraiment excellent, qui est vraiment je trouve le point fort du film pour moi.
Bah ça oui c'est sûr.
Ouais.
C'est sympa de retrouver certains personnages précédents films. Quoi.
Parce qu'en fin de compte, ok. Et donc on peut pas trop en parler.
Non, mais les super vilains qu'on en retrouve plein en fait dans ce film-là. Il y en a plusieurs.
Ouais. Bah, notamment, bien sûr, le Bouffon Vert.
Des très connus quoi.
Ouais, voilà, les plus connus, les ennemis.
Les plus connus et.
Plus connus de Spider-Man.
Qui est interprété par.
Quoi, le Bouffon Vert?
Ouais.
Paul, tu me poses une colle, moi je me souviens plus comment il s'appelle.
Mais si, mais j'ai eu sur le bout de la langue, mais
ouais,
bref,
voilà.
il est juste excellent. Et puis bon, c'est vrai que non, on a quand même. Enfin, moi je trouve que ce premier trio entre MJ, Peter et Ned fonctionne hyper bien, et c'est vrai que ça, c'est aussi le côté. Enfin, ce côté même qu'on a dans Harry Potter, où c'est un trio qui fonctionne aussi hyper bien, et là on a la même chose. C'est vraiment la vraie solidarité des potes.
C'est Willem Dafoe,
magnifique. C'est vrai.
C'est en fait une autre équipe de super-héros, quoi, quasiment.
Ouais, complètement. Et je trouve ça assez fort, quoi. Surtout que, en fait, on pourrait s'attendre à ce qu'ils soient totalement effrayés par ce qu'ils voient, totalement. Mais non, ils font face.
Oui.
Bon, en tout cas, on peut dire que c'est un bon divertissement.
Ouais.
Voilà, on s'ennuie pas, enfin, on s'est pas ennuyé.
Non.
Les gens dans la salle étaient contents, a priori. Il y a une bonne ambiance. Parce que alors, Paul l'a vu deux fois, hein, Spider-Man.
Oui,
ses cousins aussi.
Ah ouais. Donc, il a décortiqué.
Voilà, donc c'était plutôt pas mal. Après, il faut aimer les films de super-héros, il faut aimer Spider-Man, parce que c'est clairement ça. C'est pas autre chose que ça. C'est pas un film où Spider-Man va mûrir du tout. Pas du tout.
Non, c'est vrai. Après, par contre, il y a un aspect très, très... Moi, je le trouve très, très... Enfin, comment dire, un aspect qui rend le film encore plus... Enfin, qui le rend très, très intéressant, encore plus intéressant. C'est le fait que, bon, déjà, on savait que Spider-Man est quelqu'un qui ne tue pas des humains innocents, bien sûr. Un peu comme Daredevil, il se refuse à tuer. Mais c'est aussi quelqu'un qui va aider... les super vilains.
Ah ouais, c'est-à-dire que c'est ça.
Ça, c'est quand même énorme. C'est-à-dire que il va aider ses adversaires. Il se contente pas de se battre contre eux, mais il va les aider même contre eux-mêmes.
Il faut pas tout dire.
Non, mais il va les aider contre eux-mêmes. C'est ça qui est intéressant.
Mais ça, c'est un vrai problème justement. Ouais. Moi, je trouve dans le film, c'est un problème moral. Ça.
Ouais,
tu peux pas faire le bonheur des gens contre eux.
Non. Mais et c'est toute la difficulté. Et là, je trouve
qu'il y a un dilemme moral.
Ouais. Bon, après, on retrouve quelque chose qui est super intéressant. Ben voilà, c'est un film qui réaffirme toujours la liberté hein, de l'humain, quoi. C'est-à-dire que le fait que
c'est très américain. Pour
ouais. Au fond. Mais tu vois, sans oublier qu'il y a quand même des déterminismes. Hein. Tu vois, des déterminismes sociaux qui nous poussent à être qui on est, ou des passions qui nous poussent à faire ce qu'on doit faire. On est influencé. Et pourtant, le héros ne cesse de dire, voilà, on a toujours le choix, on est fait de nos choix. Et au bout du compte, il y a cette fameuse phrase tout le temps qui revient.
Et oui, un grand pouvoir
implique de grandes responsabilités.
Voilà. Bon, bref, allez voir Spider-Man, vous passerez un bon moment.
Oui.
C'est vrai que c'est pas le pire.
Non, franchement.
Des Marvel. Non, c'est vrai qu'il est bien.
Bah, je trouve que. Bon, moi, c'est vrai que j'avais adoré le premier. Un petit peu moins le deuxième. Mais si j'avais à les classer, je ferais.
Tu veux dire,
un 3-2.
Dans les
derniers
Spider-Man
de la MCU.
Tom Holland.
Ouais.
Tu parles pas des trois. Parce qu'il y a eu quand même trois Spider-Man.
Ah ouais, carrément. Ouais. Ouais,
moi, j'ai un petit fait pour les premiers films avec Tobey Maguire. Mais bon,
moi aussi.
Bon, bref, voilà pour le cinéma. On écoute un peu de musique. Paul, tu as demandé Outcast.
Oui.
Mrs. Jackson.
C'est ça.
C'est tout de suite dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
101.5, la radio qui fait le point. Yeah, this right here goes out to all the babies, mamas. Mamas. Baby mamas. Yeah, go like this. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. My baby is drama, mama. Don't like me. Doing things like having the boys come from her neighborhood to the studio trying to fight me. She need to get a piece of American pie and take her bite out. That's my house. I disconnect the cable and turn the lights out and let her know her grandchild is a baby and not a paycheck. Private school, daycare, shit, medical bills, I pay that. I love your mom and everything. See, I ain't the only one who lay down. She wanna rip you up and start a custody war. My lawyer, stay down. She never got a chance to hear my side of the story. We was divided. She had fish fries and cookouts for my child's birthday. I ain't invited. Despite it, I show her the utmost respect when I fall through. All you do is defend that lady when I call you. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. Me and your daughter got a special thing going on. You say it's puppy love. We say it's foreground. This way forever. You can plan a pretty picnic, but you can't predict the weather. Miss Jackson, times out of nine. Now if I'm lying, fine. The quickest muzzle, throw it on my mouth and I'll decline. King meets queen, then the puppy love thing. Together dream about that crib with the Goodyear swing. On the oak tree, I hope we feel like this forever. Forever, forever, ever, forever, ever. Forever never seems that long until you're grown. And notice that the day-by-day ruler can't be too wrong. Miss Jackson, my intentions were good. I wish I could become a magician to abracadabra all the sadder. Thoughts of me, thoughts of she, thoughts of he. Asking what happened to the feeling that her and me had. I pray so much about it, need some knee pads. It happened for a reason, one can't be mad. So know this, know that everything's cool. And yes, I will be present on the first day of school and graduation. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize.
speed. Skiller nose ass homegirls and got your ass in up the creek, G. Without a pad on, you left to straddle and ride this thing on out. And the union girl ain't speaking no more, cause my dick all in, I'm out. So I'm talking about jealousy, infidelity, envy, cheating, beating, and the N to the G, they be the same thing. But who you placing the blame on? You keep on singing the same song. Let bygones be bygones, and you can go and get the hell on you and your mom.
I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times.
Voilà, c'était Outkast avec Mrs. Jackson dans Mom Geek Mafia. Creature Shock Radio FM. Alors tout de suite, Sam, tu nous parles de Gael Faye.
Et oui, le monde se divise en trois catégories. Ceux qui connaissent Gael Faye pour son livre, ceux qui le connaissent pour sa musique et ceux qui ne le connaissent pas. Et aujourd'hui, mon but, c'est d'éliminer cette troisième catégorie et d'en apprendre plus sur les deux autres et notamment sur le style musical de Gael Faye. Donc on est parti pour s'immiscer dans son univers. C'est un univers en double partie, littéraire et musical, qui se rejoignent légèrement. Vous allez le constater, et justement, Gael Faye, ça donne ça.
Lâcher l'assiette, monter le cheval et galoper, braquer un RER, diligence, la pache de Belleville. Viens traquer vengeance comme Balavoine arrive en ville. Ils veulent nous assigner des places et nous faire saigner. Les amoureux au banc public n'arrêteront jamais de s'aimer. Depuis que nos tchèques ressemblent à des poignées de main de montoir, on ne laissera personne parler au nom de nos espoirs. On n'est pas des victimes, encore moins des condamnés. On arrivera de l'aube en éruption spontanée.
Mais Gael Faye, c'est aussi ça.
Je vais rallumer la flamme, recommencer le combat. Affûter ma lame, me replonger en moi. Un fantôme se pavane dans son anonymat. Rêve d'un pays de cocagne où l'on m'attendait là-bas. Car dans la ville je meurs, à nager dans des yeux. Des regards transparents qui me noient à petit feu. La zone est de mépris, la vague est d'indifférence. La foule est un zombie et je vogue à contresens.
Et vous savez quoi, Gael Faye, c'est l'auteur qui est tombé pour l'épreuve de français de mon brevet blanc. Et c'est logique parce qu'il manie extrêmement bien la plume, que ce soit littérairement ou musicalement. Gael Faye est donc un écrivain et auteur, compositeur, interprète franco-rwandais. Pendant son adolescence, il se passionne d'abord pour le rap et le hip-hop, de genres dont il joue encore aujourd'hui et dans lesquels il parvient à exprimer sa douleur liée à l'exil de son pays natal pendant son enfance. Il démarre sa carrière en 2009 lorsqu'il forme le groupe Milk Coffee and Sugar avec Edgar Sekloka. Ensemble, ils publient leur seul album en duo du nom de leur groupe. Gael Faye poursuit alors seul sa percée dans le monde de la chanson. Il sort en 2013 son premier album solo Pili Pili sur un croissant au beurre, puis en 2017 un premier EP, Rythme et Botanique. Il enchaîne ensuite avec son second EP en 2018, Des Fleurs, et enfin le 6 novembre 2020, Gael Faye fait paraître son deuxième album intitulé Lundi Méchant, qui sera nommé album de l'année 2021 aux Victoires de la Musique. Et surtout, entre-temps, le 24 août 2016, Gael Faye publie Petit Pays, son premier et seul roman pour l'instant, livre qui obtiendra notamment le prix Goncourt des lycéens en novembre 2016.
Casse ton pied, ta tête, ta nuque, tout le monde, tout le monde, tout le monde. À l'époque, ils voulaient pas trop le rap, la musique afro. Maintenant que tout le monde est accro, ouais, dis-nous qui sont les patrons. Le style, un blanc, bas, un boubou. On fait tout, appelle-nous Foubou. J'fous les subs que tout bouge et secoue. J'mets le fire dans ton igloo. J'frappe à coups de jab comme un nunchaku. Check si tu connais la ref. Mon amour, car le monde est fou. T'inquiète, on va réparer sa tête. Allez, mettez pas dans mes pas. Kigali jusqu'à Goma. Décibel à dose létale. Yeah, boum et boum et les baffes.
Lorsque Gaël Faye est arrivé en France, il n'avait pas les codes pour s'intégrer dans la société, très différente de celle de son pays natal, le Burundi. Selon lui, tout était compliqué, s'inscrire dans un club de sport ou faire de la musique, par exemple. Finalement, il a déniché un quartier beaucoup moins riche et où les jeunes pouvaient s'exprimer plus librement, sans être contrôlés ou guidés dans toutes leurs actions. Les gens graffaient, dansaient, écrivaient, et cet espace regorgeait d'amitié et de liberté expressive. Gaël Faye se livre au temps en disant « Le hip-hop de ces années-là était marginal, c'était l'expression des immigrés. Je pouvais en faire partie avec mon histoire sans que cela soit bizarre. On vivait notre passion sans demander la permission à personne. » Gaël Faye utilise dans sa musique un grand métissage entre les cultures de la France et du Rwanda. C'est sur son album Pili Pili sur un croissant au beurre qu'il fait ressortir cette caractéristique où il mélange des styles slam, hip-hop et soul. Justement, c'est à l'âge de 15 ans qu'il a découvert le hip-hop grâce à une MJC qui abritait des rappeurs, des danseurs et des DJ, ce qui lui a permis d'appréhender cette nouvelle culture.
Ce soir, c'est la pression. Je vois le réel de trop près. Les insignes des agents, au sol nos silhouettes à la craie. J'ai beau fermer les yeux, je ne m'échappe jamais du ciment. Et au loin le chant des sirènes ne vient jamais de l'océan. Ici tout a un prix, même lorsqu'on se dit je t'aime. On vit tous dans le gaz, on fait des rêves kérosène.
Et donc, depuis novembre 2020, Gaël Faye est de retour avec son deuxième album solo, Lundi Méchant, sur lequel il chante beaucoup plus qu'il ne rappe, contrairement à son premier disque. Selon lui, le lundi méchant, dans la culture rwandaise, c'est une expression pour désigner un état d'esprit qui serait rebelle, en quelque sorte, pour se révolter contre une situation de la vie qui nous est imposée. Dans ce deuxième album, Gaël Faye parle beaucoup moins de lui, en supprimant le jeu qu'il employait beaucoup plus dans ses opus précédents. Une autre différence notable, c'est que ce deuxième album comporte beaucoup moins de textes. Gaël Faye souhaitait cet album avec une musique plus aérée, plus d'espace pour les textes et moins de mots. Il s'exprime en disant « Faire de la musique, ce n'est pas toujours dire des choses, c'est ressentir des choses. Je ne voulais pas faire de la musique que pour penser, je voulais aussi faire de la musique pour danser. » Moins de mots, moins de textes dans cet album, mais en gardant toujours comme repère une écriture bien travaillée. Justement, en s'identifiant à des célébrités comme Jacques Brel ou Serge Gainsbourg, Gaël Faye cherche à travailler le sens des mots dans ses chansons et la symétrie de ses couplets. Justement, dans cet album, on retrouve le titre « Seul et vaincu » écrit par Christiane Taubira. Selon lui, c'est un poème rédigé par l'ex-ministre qui annonce la victoire des minorités sur ceux qui les méprisent. Écoutez Gaël Faye qui parle au sujet de la crise et des problèmes actuels. Il s'exprime dans une interview de France Info.
Je suis pas un optimiste, Béa. Je suis un pessimiste qui croit en l'avenir. Il y a des combats à mener qui nous fatiguent déjà d'avance, parce que l'époque aussi nous assoupit. Mais n'empêche, il y a quand même la vie, et la vie, c'est la lutte. Quand on a des moments de défaitisme, eh bien, faut se pencher sur les poètes, faut se pencher sur l'histoire. Elle réactive un peu l'espoir.
Vous finirez seuls et vaincus, sourds aux palpitations du monde. À ces hoquets, ces hauts, ces bas, ces haussements d'épaules veulent, recensement des ossements qui tapissent le fond des eaux. Vous finirez seuls et vaincus, aveugles aux débris tenaces, de ces vies qui têtues s'enlacent, de ces amours qui ne se lassent, même lacérés de se hisser à la cime des songeries.
Le 24 août 2016, Gaël Faye publie donc Petit Pays, son premier roman, qui connaîtra un succès mondial. Petit Pays, c'est un livre inspiré de son enfance, comme une autobiographie, mais dans lequel il met en scène un personnage réel, nommé Gabriel, mais qui n'est pas exactement lui. À travers Gabriel, Gaël Faye représente ses interrogations qui l'ont traversé durant son périple et lors de son exil en France. En fait, pour Gaël Faye, ses débuts en tant qu'écrivain ont eu lieu en mars 1995. Alors qu'il avait 12 ans et qu'il écrivait des lettres à sa mère presque inconnues pour lui. Cela se déroulait dans un contexte de combat de plus en plus fréquent au Burundi, où il a perdu des amis et a été menacé de mort. Il s'est alors lancé dans la poésie, un art qui l'apaisait et qui lui permettait d'oublier cette situation traumatisante. Une situation traumatisante dont il n'a jamais été réellement soigné, même si pour lui, sa manière de se soigner, c'est l'écriture, et ce, encore aujourd'hui. Finalement, on peut dire que son roman Petit Pays, c'est ça. C'est un lundi méchant.
Comment ça va lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, bien dormi, le week-end bien passé, t'as glandé, la famille, les enfants, les amis, le barbecue annulé par la pluie. Est-ce que ça va? T'es sûr que ça va? Tu me caches pas quelque chose que je devrais savoir? Un divorce, un cancer, ta belle-mère, une mauvaise dépression, le moral est-il bon?
Et voilà, c'était Gaël Faye, un chanteur et un écrivain, un artiste en tout cas, un artiste aux deux facettes, aussi brillante l'une que l'autre. Gaël Faye, c'est un prix Goncourt des lycéens pour son roman Petit Pays, une victoire de la musique pour son album Lundi Méchant, ainsi que l'adaptation au cinéma de son livre. Gaël Faye, c'est tout ça, alors n'hésitez surtout pas à aller y jeter une oreille.
Sur la piste, on se prouve que l'on vit, qu'on existe, on résiste, bien qu'on doute, qu'on hésite, on écoute les battements de cœur, les signes, tant d'hélas, d'à quoi bon qu'on remplacera par nos rêves qu'on embrassera. Viens, on danse sur ces mots doux, cette Santeria, cette magie noire, ce vaudou.
Sinora,
yeah, Sinora, Sinora,
uh-huh. Sinora.
J'ai chanté les hauts, j'ai chanté les bas sans attendre la victoire. Inventé des mondes et enchanté l'aube sans attendre le grand soir. J'ai bravé tous les dangers, Sinora. Toute cette beauté qu'on a fait, c'est nos larmes. Venant de l'au-delà, la musique est pour l'âme. Des chants d'Alabama aux prières de Brahman. J'avance, marche sur des larmes en jambes, des coulées de lave. Le diable dans les parages frotte façon Kizumba. Je vis dans mes chaos, je rembobine mes larmes. Je reprends à zéro, je tire à rêve réel. La gâchette à mes lèvres, les mots fusent dans le ciel, se logent dans des comètes.
Sinora,
yeah. Sinora, Sinora,
uh-huh. Sinora.
Sinora, Sinora,
Sinora.
De la mer brillante Caraïbe aux rives Tanganyika. Combien de fois sommes-nous tombés, et pourtant, nous venons de si loin que l'on s'étonne encore d'être là, juchés sur les épaules des géants.
Gaël Faye, merci Sam pour ta chronique.
Avec plaisir. Et ouais, Sam, tu reviens, qui nous vient de Bordeaux.
Et on salue tous les Bordelais, les Bordelaises.
Ben ouais,
on en connaît plein.
Absolument, on en connaît.
Creature Shock Radio FM. Alors, Paul, ce soir, tu as décidé de nous parler d'une série.
Exactement, et donc d'une série
bien mystérieuse, ma foi.
C'est ça, qui est sortie sur Netflix en septembre de cette année, à la fin du mois de septembre, et qui s'appelle donc Midnight Mass.
On écoute tout de suite la bande-annonce officielle.
Avec plaisir.
An empty land, I knew the pathway like the back of my hand.
Welcome home, honey, where you belong.
The place we used to love, is this the place that I've been dreaming of?
I know you struggled with what happened.
With what I did.
Yes, with what you did. But help is here.
A simple thing. Where have you gone?
Good morning. I know I'm not who you expected to see. Just know I'm only here to help, and I look forward to meeting you all.
So tell me when you're gonna let me in.
I'm a pretty rational guy.
Merci Sébastien. Donc Midnight Mass, qui veut dire littéralement la messe de minuit, mais qui pour une raison inconnue a été traduit en français par sermon de minuit. Bon, ce qui n'enlève rien à la qualité en elle-même de la série. Donc c'est une série réalisée par quelqu'un que nos auditeurs connaissent peut-être, qui s'appelle Mike Flanagan. Donc qui est alors un réalisateur un peu à deux facettes, puisque d'un côté c'est un réalisateur de longs métrages, oubliables peut-être. Peut-être que certains d'entre vous ont vu ou se souviennent de Ouija, les origines.
Ah oui.
Ou encore de Doctor Sleep, la suite de Shining avec Ewan McGregor.
Ah, moi j'ai bien aimé quand même.
Ah, je suis un peu plus circonspect, j'avoue.
Ouais. Mais c'est parce que j'adorais le roman, mais bon.
Mais en fait, il est bon public, Pablo.
Ouais, je suis bon
public. Mais à côté de ça, c'est aussi le réalisateur de plusieurs séries, notamment alors attention à la prononciation, The Haunting of Hill House, qui est donc sorti en 2018, qui est l'adaptation du roman Maison Hantée de Shirley Jackson, une excellente série que je vous conseille, et je sais que je ne suis pas le seul autour de cette table.
Ouais, elle est géniale.
C'est aussi le réalisateur en 2020 de The Haunting of Bly Manor, donc rien à voir avec la précédente série, vous pouvez voir les deux indépendamment l'une de l'autre, si ce n'est qu'on retrouve quelques acteurs en commun à chaque fois, et c'est aussi le cas donc de Midnight Mass ou Sermon de minuit en français. Donc Sermon de minuit, de quoi ça parle? Qu'est-ce que c'est? Eh bien alors c'est de nos jours, sur une petite île au large de la côte est des États-Unis. Pour vous situer un petit peu, on est à peu près dans la même aire géographique que les Dents de la Mer ou encore Moby Dick. Donc on est dans cette aire géographique. D'accord. Et donc c'est l'histoire de cette communauté qui vit sur cette île un peu reculée, un peu loin de tout. Et un jour, catastrophe, le prêtre de cette île qui était parti en pèlerinage à Jérusalem ne revient pas, il n'est plus en état de revenir, il ne peut pas revenir. Donc c'est un peu la panique sur l'île, jusqu'à ce que, miracle, arrive un nouveau prêtre. Seulement à partir de ce moment-là, on va assister à un certain nombre d'événements mystérieux, un peu, j'essaye de ne pas trop en dire, un peu mystérieux, un peu inquiétant aussi. Et donc c'est ce qu'on va suivre pendant les 7 épisodes de cette série. Donc attention, parmi les acteurs donc, qui reviennent un petit peu dans toutes les séries de Mike Flanagan, on trouve Henry Thomas. Alors, est-ce que c'est un nom qui vous dit quelque chose? Henry Thomas Jr., même, pour être plus précis.
Ça me dit quelque chose, mais...
Alors, c'est l'acteur qui joue l'enfant dans E.T.
Waouh!
On l'avait oublié. Alors, par contre, lui, il a dû mûrir hein, depuis.
Alors, un petit peu. Il a pas une filmographie extrêmement conséquente, mais depuis E.T., il ne s'est pas arrêté de tourner jusqu'à, donc, eh bien, cette année, donc Midnight Mass.
Ça alors?
Donc, Pablo, toi, est-ce que tu l'as vu cette série?
Non, pas du tout. Par contre, j'ai vu The Haunting of Bly Manor et Hill House. Et vraiment, j'ai adoré. Enfin, j'ai été tenu en haleine d'un bout à l'autre. J'en rêvais la nuit. Je voyais un épisode, j'en rêvais. Ah non, mais j'étais.
Ça fait peur.
Ah non, vraiment, j'étais sur le fil, quoi.
C'est ça. Alors ici, donc, c'est plutôt un réalisateur d'horreur.
Ouais.
Et ici, Midnight Mass, ce serait plutôt, on en parlait tout à l'heure, une série d'épouvante, plutôt. D'accord. Plus qu'une série purement horreur.
Et puis d'ambiance un peu, c'est ça.
Oui, c'est ça, effectivement.
C'est un événement surnaturel, quoi.
C'est ça, c'est un petit peu inquiétant, un peu stressant. Alors c'est ça en fait aussi le fil conducteur un petit peu de ces sept épisodes, c'est aussi une réflexion sur la religion et même sur la foi en fait. D'accord. De manière plus plus globale, plus générale.
Carrément.
Est-ce que c'est pas, alors moi je fais toujours un petit peu l'avocat du diable, c'est le cas de le dire. Est-ce que c'est pas un peu lent, un peu, parce que moi c'est quelquefois c'est ce qui m'ennuie dans certaines séries, c'est que ça traîne un peu. Bon là il y a que 7 épisodes.
Ici effectivement, ce que j'allais dire, la série est terminée, c'est juste une saison avec 7 épisodes.
Okay.
Donc alors effectivement, les amateurs d'action ou vraiment de films ou de séries avec un rythme assez effréné seront peut-être un petit peu resteront peut-être un petit peu sur leur faim. Mais en tout cas moi à titre personnel, non, je peux pas dire que je me sois ennuyé pendant effectivement ces 7 épisodes.
C'est pour les fans de True Detective qui aiment bien les ambiances un peu lentes. Comme
alors on n'est pas non plus là-dessus. Non. Rassurez-vous, il y a quand même c'est très bien rythmé. Voilà, Mike Flanagan sait ce qu'il fait.
Ouais.
Donc moi personnellement, voilà, je la conseille à toutes et tous.
Enfin moi okay. Pour les séries précédentes que j'ai vues de lui, il a une façon de diriger les acteurs qui est hyper intéressante. Il leur laisse beaucoup de place et il y a beaucoup de psychologie dans ses personnages.
Oui, c'est vrai. Puis c'est assez intéressant le travail qu'il fait avec les acteurs, dans la mesure aussi où on retrouve régulièrement les mêmes, mais à chaque fois dans des rôles ou dans des configurations différentes.
Comme et dans ça, American Horror Story.
C'est ça. Ou ouais. dans le monde de, je sais pas si on peut faire un parallèle avec un autre média dans le monde de la bande dessinée, ce que fait Lewis Trondheim avec Lapinot par exemple. Mm-hmm. Donc okay. c'est le fait voilà, de réutiliser un petit peu encore et toujours les mêmes personnages, mais dans des situations différentes, dans des rôles différents. Donc c'est aussi assez intéressant à voir.
Une série d'anthologie.
Exactement.
Bah écoute, merci Paul.
Eh ben merci Paul.
On regardera, mais on espère qu'on n'aura pas trop peur.
Bah,
serment de minuit.
Ouais, ou qu'on se fera plaisir en ayant
c'est
peur.
Ça. Serment de minuit et non pas donc messe de minuit. Voilà. Il faudrait chercher Midnight pourquoi, pourquoi bah, ça a été traduit comme ça.
Il y a souvent comme ça des trucs marrants. Par exemple, ouais. Very Bad Trip, c'est pas du tout le titre du film américain.
Ah
alors
ouais.
On pourrait croire que c'est le titre français en fait.
D'accord.
Aux États-Unis, ça s'appelle The Hangover. C'est-à-dire la gueule de bois.
Rien à voir. Ah ouais, exact.
Voilà, et donc on aime bien traduire les titres en leur donnant un autre sens.
Un peu approximativement, voilà.
Bon, ouais. Voilà, c'est juste, enfin, c'est de la com en fait.
Ouais, c'est de la com.
Pour attirer le.
Peut-être que serment de minuit, ça sonne mieux à l'oreille que
messe de minuit. Ça fait un peu, tu sais, messe de Noël, quoi.
Ouais.
Ah non, effectivement, c'est pas très, c'est pas vraiment l'esprit de Noël.
Là, c'est pour dire que c'est mystérieux, tu vois. Serment de minuit.
Ah oui, effectivement, peut-être.
Ça chuchote dans les églises.
Ouais.
Bon, Paul, tu as choisi Dreg.
Oui, c'est ça.
Dreg. Qu'est-ce que c'est ?
Avec 2G, c'est un groupe australien. Une des découvertes de cette année 2021 qui arrive à sa fin tout doucement.
Ouais.
Donc ils ont sorti plusieurs singles à la suite cette année. Ils sont signés chez Epitaph Records, donc le mastodonte ou le géant label américain de musique indépendante.
C'est vrai.
Trop bien.
Qui publie pas mal de punk rock. Alors oui. C'est tout de suite dans Bande Geek Mafia.
Sur Radio G 101.5. La radio qui fait le point.
Vaccination!
Voilà, c'est Dreg et Nerve.
C'est ça, Nerve, c'est ceux qui font le tout le visuel du clip.
Ah, cool. Merci Paul pour cette découverte.
Ouais, génial.
Je vous en prie.
Alors, on se fait plaisir, on finit l'année en beauté. On va passer de la musique, tout ce qu'on aime.
Ouais.
Sam, tu as choisi Christine and the Queens. Alors, pourquoi ce choix ?
Freedom, ouais. Bah, en fait, je l'ai découvert complètement par hasard. Et j'ai tout de suite accroché. Et souvent, moi, une chanson, quand je la découvre comme ça par hasard, je l'écoute un peu en boucle.
Mm-hmm.
Et donc bah, j'ai choisi de la passer aujourd'hui parce qu'en plus c'est une reprise de George Michael. Ah. Et je sais que c'est en préparation du nouvel album justement de Christine and the Queen.
Eh ben, on écoute ça tout de suite.
Ouais,
et
puis on a besoin de liberté. Hein.
I won't let you down, will not give you up. Can I have some faith in the sound? It's the one good thing that I've got. I won't let you down, so please don't give me up. 'Cause I would really, really love to stick around. Oh, yes.
C'est Christine and the Queens, hommage au grand George Michael qui nous a quittés il y a 5 ans à Noël.
Exactement, le 25 décembre.
À quel âge ?
53 ans.
Il sait tout.
Viens me regarder.
Côté Michael Jackson là.
Ouais.
Bien, on voulait aussi vous dire qu'on a vu un super film hier sur une plateforme qu'on commence par un N et qui finit par un X. Les gars, est-ce que vous voulez parler de Don't Look Up ?
Ben ouais, alors c'est avec Leonardo DiCaprio et plein d'autres acteurs célèbres que vous connaissez sûrement. Donc, est-ce que tu peux dire de quoi ça parle, toi, Paul ?
Donc, les scientifiques dont fait partie Leonardo DiCaprio ont découvert une météorite qui va sans doute s'écraser sur la Terre.
Ah oui.
Et donc, ils vont essayer, c'est le cas de le dire, essayer d'en parler au président de la République, à la présidente de la République.
Donc, des États-Unis.
Des États-Unis. Et donc, de leur faire comprendre que c'est grave, que l'heure est grave.
Malheureusement, ça ne va pas tout à fait se passer comme eux le voudraient ou l'auraient prévu.
Quoi, tu veux dire qu'ils ne sont pas écoutés ?
C'est ça.
Pas tout à fait.
Oh,
c'est de la fiction, bien sûr.
C'est étrange, oui, c'est de la fiction.
Donc, c'est à la fois très drôle et tragique, en fait, ce film.
Ça
fait penser quand même à des films catastrophes, des films d'action, des films comme ça, d'anticipation. Mais c'est très bien, très très bien fait, on vous le conseille, on a vu ça hier soir. Don't Look Up, ne regardez pas en haut.
C'est ça.
Don't Look Up,
étrangement réaliste.
Et donc tu disais le super casting, quoi.
Ah ouais.
Oui, alors casting 5 étoiles, donc Leonardo DiCaprio,
Meryl Streep,
Jennifer Lawrence.
Ouais.
C'est ça.
Kate
Thomas
Blanchett.
Sisley. Le seul, l'unique.
Jonah Hill.
C'est ça. Ron Perlman.
Ouais. Yes.
Non, c'est vraiment très bien. Réalisé par Adam McKay qui a fait de bons
c'est
films.
C'est ça. Et donc avec Timothée Chalamet.
Ah oui, c'est vrai.
Dis donc.
Et avec une petite apparition du rappeur Kid Cudi aussi.
Ah, c'est ça. Et de Ariana Grande.
Ariana Grande,
aussi.
Exact. Il y a du beau monde.
Il y a carrément du beau monde.
Ariana Grande, Kid Cudi qui ont, je pensais pas, mais sûrement plus d'humour et d'autodérision et de recul sur eux-mêmes que ce que je pouvais supposer.
D'accord.
Bien, c'était Band Geek Mafia, votre émission Infoculture, une semaine.
La dernière de l'année.
La dernière de l'année. Merci à tous.
Merci à toutes.
On se quitte
tous
avec Gojira, qui a sorti son meilleur album en 2021.
Ouais, tu avais chroniqué cet album et c'est vrai que c'était une des perles de l'année.
Et on se retrouve en 2022.
Voilà.
Salut.
Salut.
Ciao, ciao à tous.